Bonjour, je suis Gaëlle Lann, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast du blog Super Pouvoir pour tous, dans lequel on va parler cerveau. Et j'ai tout de suite une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà eu envie de bâiller en voyant quelqu'un bâiller? Ou est-ce que vous avez déjà eu envie de sourire en voyant quelqu'un de sourire? C'est contagieux un sourire, non? Si c'est contagieux, c'est parce qu'il y a chez vous une sorte de miroir qui capte et qui reproduit ce que vous observez. Et c'est grâce à ce miroir que vous avez appris toutes sortes de choses depuis que vous êtes bébé. Bon, a priori, je vous apprends pas grand-chose avec ça. Ce miroir, ce sont les neurones miroirs. C'est une super découverte des nouvelles sciences, et aujourd'hui, on va voir comment ça marche, à quoi ça sert, et les pistes hypnotiques pour les entraîner. Donc déjà, c'est quoi les neurones miroirs? Je sais pas vous, mais moi, il n'y a pas si longtemps, neurones, c'était un peu comme antioxydants, genre, tu vois bien l'idée, mais de là à expliquer à un enfant ce que c'est, ben en fait, t'as pas tant compris que ça. Donc, on commence par le début. Neurone, définition, c'est une cellule du système nerveux qui reçoit, analyse et transmet les informations. Donc, le système nerveux, c'est le centre de traitement, et le neurone, c'est un bonhomme dedans. Il y a différentes sous-parties du système nerveux, et donc différents types de neurones. Il y en a 200 par là, après il y en a 100 milliards en tout. Et antioxydants, ça n'a absolument rien à voir, mais tant qu'on y est, un peu de culture générale après tout, de rien. Et bien ce sont des molécules dans certains aliments qui vont capter d'autres molécules responsables du vieillissement. Voilà, donc retour à nos neurones. Donc il se passe un truc, n'importe quoi. Le neurone réagit, il s'active. Et il retransmet le message à d'autres neurones ou à d'autres tissus, comme les muscles ou des glandes, qui, eux, vont permettre une réaction du corps. Et donc, parmi ces 200 types de neurones différents, on trouve les neurones miroirs. Dans la famille neurones moteurs, donc ceux qui permettent de faire des mouvements, c'est un neurone qui s'active de la même façon qu'on fasse quelque chose ou qu'on regarde quelqu'un faire cette chose. Donc faire ou regarder, ça donne l'activation du neurone dans les deux cas. Par exemple, j'ai soif, je prends un verre d'eau. Un neurone miroir qui déclenche le geste va s'activer. Mon frère a soif et prend un verre d'eau aussi. Moi, je fais pas le geste, mais ce même neurone miroir, il s'active quand même chez moi là aussi. Du coup, d'une certaine façon, on se retrouve impliqué dans ce qu'on voit, ce qui permet de le comprendre. J'ai déjà bu un verre d'eau quand j'avais soif, et mon neurone miroir qui s'active me fait comprendre que mon frère a soif. Mais si mon frère fait un truc que j'ai jamais fait, comme éplucher des patates avec une paille. Son expérience ne fait pas partie de mon répertoire d'expérience, et mes neurones miroirs ne s'activent peut-être pas tous, c'est-à-dire que ceux qui reconnaissent le geste d'éplucher la patate, oui, mais ceux qui regardent la paille, non. Donc je comprends pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il enlève la peau, ou est-ce qu'il fait des trous? On va voir maintenant comment les neurones miroirs permettent d'apprendre. Comme je viens de vous le dire, pour que vos neurones miroirs s'activent et apprennent aux autres fonctions à s'améliorer, donc les fonctions visuelles, sensorielles, verbales et motrices, vous devez donc avoir tenté un début d'expérience. Mes neurones miroirs ne vont pas s'activer en regardant une vidéo d'un salto arrière. Malheureusement, c'est un but dans ma vie, je ne sais pas où ça me mènera. Parce que j'en ai jamais commencé l'apprentissage du tout. Donc à force de prendre des cours de trampoline, de faire des pirouettes maladroites par-ci par-là et donc de pratiquer, et à côté de regarder les autres en faire, je vais effectivement exercer mon corps d'un côté, en force, souplesse, vivacité, agilité, etc. Mais aussi mes neurones miroirs qui vont à leur tour permettre que mon corps progresse. Donc, quand on part de zéro, on a une intention de départ, ça commence toujours par là, qui va créer une action, ou un geste, même tout petit, qui va commencer à activer les neurones miroirs. Et comme ils ont été activés, ils vont pouvoir trouver un écho à l'extérieur et s'en nourrir pour se développer. Prenons un pianiste qui joue un air de piano. Ses neurones miroirs s'activent. Un deuxième pianiste à côté écoute sans jouer. Les mêmes neurones miroirs s'activent. Une troisième personne écoute aussi mais n'est pas pianiste. Les neurones miroirs en question ne s'activent pas. Les neurones miroirs, ils ne vont donc pas être impliqués dans le développement des capacités intellectuelles. Comme je vous disais, ils vont concerner les capacités visuelles, sensorielles, verbales et motrices. Par contre, ils vont pouvoir entrer en compte dans le développement des compétences sociales, comme le charisme par exemple, ou certaines attitudes. Vous allez imiter quelqu'un qui vous plaît, un orateur par exemple, à qui vous avez envie de ressembler, et à partir de ce que vous apprenez de cette personne, vous allez développer vos trucs à vous pour construire votre personnalité et ne pas être une copie de votre modèle. Maintenant, on va parler de l'empathie parce que les neurones miroirs sont à la naissance de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à identifier, à être à l'écoute des émotions de l'autre, à les ressentir, à se mettre à sa place. Un bébé en contact avec ses parents, il cherche à les imiter. Donc, par son intention de les imiter, il va activer ses propres neurones miroirs, qui vont développer d'ailleurs tout le reste du système neuronal. Il va apprendre la communication, les gestes, les sourires, tout ce qui est associé à tout ça, les émotions et leurs réponses. Il va développer de l'empathie. Mais si, pour une raison ou une autre, par exemple un défaut d'attention de la part des parents, un défaut d'éducation, de regard, ce mécanisme d'imitation ne se met pas en place ou se met mal en place, le bébé ne va pas développer l'empathie. Et donc avec un manque d'empathie, il va développer des pathologies, des troubles psychotiques, et en grandissant, l'enfant puis l'adulte donc n'aura pas de connexion sensorielle avec les autres. Il ne pourra pas se mettre à leur place et il y a des chances pour qu'il développe un comportement pervers. Après, ces neurones miroirs, ils ont une certaine plasticité, et selon le reste de la vie de la personne, bah, tout n'est pas toujours perdu, entre guillemets, il peut y avoir un développement, mais a priori, tout fantastique qu'il soit, hein, les neurones miroirs, ils vendent pas plus de rêves que ça sur le sujet non plus. Et le déficit d'activation des neurones miroirs, de manière égale en action et en observation, c'est notamment une des caractéristiques de l'autisme. La majorité des gens vont donc développer de l'empathie quand même. Mais leur capacité d'empathie va varier, là aussi, selon leur répertoire d'expériences émotionnelles. Quelqu'un qui a peu souffert va difficilement se connecter à l'état émotionnel d'une personne en dépression. Il va le voir, il va comprendre que cette personne, elle souffre, mais il ne va pas facilement se rendre compte de ce qu'elle vit. D'ailleurs, dans ce cas, on peut se retrouver rapidement démuni ou à proposer à quelqu'un des solutions complètement inadaptées et on ne se comprend pas. Quand on fait preuve d'empathie, on se retrouve affecté par la joie ou la peine de la personne qui la vit en face. Alors on a vu qu'un manque d'empathie c'était quand même très problématique, mais un excès d'empathie aussi parce que du coup on fait l'éponge. Et quand on est exposé à la souffrance en permanence, ça pardonne pas. Pour se protéger, il peut se passer deux choses. Soit une sorte d'anti-neurone miroir intervient pour nous dissocier de l'autre auquel on s'est identifié finalement et dont on a fait une partie de soi. Soit on va chercher à développer la compassion. La compassion, on reconnaît l'état émotionnel, mais on est porté par le désir d'aider et de trouver les solutions. En gros, l'empathie, ça va être votre capacité brute à reconnaître l'émotion des gens, et la compassion, c'est ce qui va vous permettre d'en faire quelque chose de positif pour tout le monde. Après, on trouve aussi la sympathie, qui est une prise en considération de l'état émotionnel de la personne, mais en gardant ses distances. On peut toujours se mettre à sa place, mais d'une manière plus détachée. Donc pour résumer, la sympathie c'est « je sais ce que tu ressens », l'empathie c'est « je ressens ce que tu ressens », et la compassion ça va être « est-ce que je peux aider ?» On va revenir un peu maintenant sur l'apprentissage parce que on va parler d'hypnose évidemment. Alors si aujourd'hui là j'ai pas encore de connaissances sur la stimulation des neurones miroirs pour développer l'empathie, je me renseigne et puis cet article est susceptible d'être complété. Vous pouvez par contre apprendre plus vite certains mouvements et gestes par l'hypnose. La visualisation, c'est un truc très utilisé chez les sportifs, par exemple, et il y a certaines stratégies qui permettent de renforcer et développer ces capacités au niveau des neurones pour que ceux-ci renvoient les meilleurs messages au corps. Donc vous vous faites une véritable salle d'entraînement intérieure avec coach, et c'est d'ailleurs une des spécialités de mes collègues chez Mental Sport. Et justement, pour revenir rapidement sur l'exemple du charisme, là aussi, on va pouvoir mettre en place des stratégies de modélisation. Il y a plein de choses très intéressantes à faire en hypnose en rapport avec l'apprentissage, mais j'y reviendrai plus tard. Pour terminer, vous êtes programmé pour imiter. À partir de là, deux choses. Premièrement, profitez-en, soyez curieux et continuez d'apprendre, sachant que selon le domaine, il y a presque toujours des stratégies facilitantes. Donc renseignez-vous. Et deuxièmement, soyez un exemple. Que vous soyez prof, parent ou autre, les autres vont recevoir et se connecter à ce que vous allez leur transmettre. Ils vont vous imiter. Donc même si la perfection n'existe pas, autant s'appliquer, on est d'accord, chacun fait de son mieux. Parce que vos élèves ou vos enfants, ils risquent de vous renvoyer vos défauts à la figure faute de conscience personnelle de votre part, donc faites bien attention à ça. Voilà, j'espère que cet article vous aura permis de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans votre tête. Il y a évidemment plein de choses à dire sur le sujet, en tout cas, si vous avez des questions ou des précisions à apporter, discutons-en. Pensez à vous abonner à la page Facebook et à la newsletter pour recevoir tous les articles chaque semaine. Moi, je vous dis à très bientôt. Bisous.